Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, mobile, console, PC. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous avons deux invités de marque, à savoir d'une part Daniel Andreyev, freelance jeu vidéo ludique de son état. Comment ça va Daniel ?
Salut, bah écoute, ça va.
Ça va timide, dis-moi.
C'est une semaine qui commence, tu sais, il y a des lundis comme ça et là je sens que c'est un lundi comme ça.
Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, merci de te joindre à nous pendant ton lundi de Pâques.
C'est un plaisir. Si mon ordinateur suit, tout va bien.
Ouais, on n'est pas certain vu ce qu'on a eu au début. Là maintenant, on va plus toucher à rien.
Je touche à rien.
Voilà. Et on a aussi un nouveau venu, Christophe Rim, qui nous rejoint de la Gaming Federation Suisse. C'est ça?
Exactement, juste Gaming Federation. Salut Patrick.
Oui, je dis Suisse pour préciser que tu vois, on fait dans la diversité en ce moment dans les émissions, on a des Suisses, des Belges, des femmes, tout ça, on invite toutes les minorités.
Ouais, bon, dire que les femmes sont une minorité, c'est un peu un mensonge.
Oui, bon, dans le jeu vidéo, tu sais, il y en a pas assez. Donc
en tout cas, ça fait
très comme
plaisir.
C'est comme les Suisses, il y en a pas assez. Donc merci à toi d'être avec nous.
Merci à toi de m'avoir invité.
Avec plaisir. Donc, on a un programme intéressant en plus aujourd'hui. On va parler d'abord un petit peu d'e-sport avec ce rapport qui a été remis au gouvernement, enfin Axel Lemaire, pour aider au développement de l'e-sport. Donc, c'est des parlementaires qui ont fait ce rapport. On va vous en donner un petit peu les détails parce que j'ai appris des choses assez intéressantes là-dedans. Il y a aussi l'annonce de la PlayStation VR, enfin du prix et de la date de sortie de la PlayStation VR. On va analyser un petit peu ça avec des infos annexes. Et on aura en fin d'émission un petit Nintendo Corner. Il y a eu quelques news Nintendo et puis plein d'autres petites news. Et on va commencer immédiatement donc avec ce rapport sur le développement de l'e-sport qui a été remis à Axel Lemaire il y a quelques jours de ça. Par deux parlementaires, il y a un député et un sénateur, Rudy Salles et Jérôme Durin, qui ont fait un travail de plusieurs mois d'études, de consultations. Et le mandat, en fait, était de faire des propositions au gouvernement pour aider à développer l'e-sport. Et pour rappel, cette idée a été issue de la consultation populaire, vous vous souvenez, pour la loi sur la République numérique d'il y a quelques mois. Et en fait, la régulation de l'e-sport était l'une des propositions les plus populaires dans cette consultation publique. Elle était parvenue, si je ne m'abuse, en première position avec des milliers de votes. Et donc, suite à ça, le gouvernement a demandé à ces deux parlementaires d'enquêter et de voir quel était le problème, ce qui se passait et comment on pouvait les résoudre. Donc, je ne sais pas si vous aviez suivi la situation de l'e-sport en France jusque-là, mais c'était pas hyper
un tout petit peu
établi,
quoi. En fait, c'était monté de briques et de brocs. Souvent, moi, j'ai suivi l'actu liée au jeu qui m'intéressait, en fait. J'ai suivi un peu Street, mais surtout Smash Bros, en fait.
Ouais.
Et Smash Bros, c'est assez génial parce que c'est un des jeux les plus pratiqués, mais en même temps, c'est celui qui est le moins... qui est détesté par tous les pro-gamers. Donc, c'est une niche de niche au sein même de l'e-sport. Et c'est des mecs... Il y a eu des documentaires assez rigolos comment s'est monté ça aux États-Unis. C'est des gros passionnés qui ont fait ça dans leur enfin dans leur garage quoi littéralement
ouais,
et c'est un jeu très important en plus pour eux donc du coup c'est assez émouvant
ouais.
Et mais surtout c'est surtout ça qui donnait l'impression c'est que toujours c'était un truc indépendant fait dans son coin et maintenant il commence à avoir depuis qu'il commence à avoir du sponsorship je pense à Red Bull qui monte son comité tout d'un coup ça s'est modernisé d'un coup tout d'un coup les gens commencent à comprendre qu'il y a du blé en jeu et du coup pas uniquement en termes de gain de lot mais aussi en termes de sponsorship donc du coup là il y a un spotlight plus important là qui s'est fait.
Bah c'est sûr que c'est le cas même pour tous les e-sports depuis un moment et ce qu'on a constaté avec cette enfin les gens qui suivaient de très près l'e-sport le savaient mais moi j'ai constaté avec ce rapport et avec ce que disaient Jérôme Durin et Rudy Sall j'ai constaté à quel point bah comme tu le disais Daniel c'est fait complètement de briques et de brocs quoi c'est monté c'est du bricolage c'est de cette manière qu'ils l'ont décrit au meltdown ils ont fait la remise au meltdown ce qui était très symbolique. Et c'est de cette manière qu'ils l'ont décrit. Ils ont dit c'est du bricolage en ce moment l'e-sport parce que légalement, fiscalement, on n'a pas les outils pour gérer l'e-sport. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, l'e-sport est assimilé à des loteries. Les compétitions d'e-sport sont assimilées à des loteries. Pourquoi ? Parce que on a un jeu qui peut avoir une petite composante de hasard et on peut y gagner de l'argent. Du coup, par défaut, comme il n'y avait pas de catégorie claire, c'était classifié comme des loteries. Et donc, il y avait tout un tas de règles qui s'appliquaient à ce genre de truc. Alors, c'était évidemment, les gens n'organisaient pas ça comme ça et c'était toléré. Mais c'était toléré parce que c'était relativement modeste et que... Voilà, ouais. Mais légalement...
Le but était d'éviter la fraude.
C'est ça.
La crainte de la fraude. Il ne faut pas oublier que... Pendant des années, il y avait les bornes d'arcade quand on était jeune, souviens-toi Patrick.
Oui, ça remonte il y a longtemps.
On avait les bornes d'arcade dans les bars et puis soudainement, les bornes d'arcade ont disparu au profit d'espèces de trucs pirates, je qualifierais presque de chinois, enfin tu vois, des espèces de machines où là, il y avait un gain d'argent et de loterie de hasard. Ça a été vite interdit, donc oui, l'État, il faut surtout gaffe
à
ce qu'il n'y ait pas du... À terme du blanchiment d'argent ou de choses comme ça quoi.
Et donc
mais on a un expert suisse pour nous en parler.
Ouais.
Pas mal, merci.
J'ai pas vu venir celle-là. Mais alors justement je pouvais pas résister. Je vais te donner la parole après Christophe mais je vais juste détailler un petit peu ce à quoi s'attaquent donc ces propositions des deux parlementaires. Donc la première question c'est la question de la légalité. Comme je disais, il faut légaliser la pratique de l'e-sport en la différenciant des lois sur les loteries. Donc ça c'est la première chose qu'ils proposent, faire en sorte que ça soit différencié. La deuxième chose tout le monde est là. Donc ce que je disais, c'est que les gains des mineurs devraient être consignés à la Caisse des dépôts et consignations, hein, jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs, comme pour le sport. Il y a une question de la publicité, ça c'est un truc qui est auquel on pense pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de sponsors, comme tu le disais Daniel, il y a beaucoup de sponsors qui s'intéressent à l'e-sport, et si jamais on montre à la télévision ou sur les ondes une marque, eh ben c'est considéré comme de la publicité déguisée. Alors il y a une dérogation pour les événements sportifs, le foot, etc. Évidemment, on va pas flouter les noms des sponsors. Et là, ils voudraient appliquer le même type de dérogation à l'e-sport, ce qui serait normal. Il y a des trucs tout bêtes en fait auxquels on pense pas forcément. La question des contrats. Il faut est-ce qu'on fait des CDD, des CDI, des trucs. Il faut une règle spéciale avec des CDD spécifiques. Comme encore une fois pour le sport, il y a la question des visas. Comment faire venir des compétiteurs e-sportifs? C'est pas des athlètes de sport officiellement, donc ils n'ont pas droit à ces visas spécifiques. C'est pas des touristes non plus, donc ils peuvent pas venir en visa de touriste. Mais alors, ils viennent pour travailler, mais pour travailler, il faut donc ça implique énormément de choses en plus. Mais enfin, c'est hyper compliqué. Là encore, il y aurait des statuts spécifiques. Il y a encore la question des taux de TVA qui va être adaptée pour les billets, pour les compétitions. Et la question des dons pour le financement des e-sportifs, des dons tout bêtement par Twitch ou par ce genre de plateforme qui vous permet de recevoir des dons. Et ben là, la question fiscale, et moi j'en sais quelque chose parce que je suis financé aussi comme ça et on peut pas prendre de dons, ben là peut-être qu'ils vont réussir à faire un statut spécifique pour les dons, pour le financement de ce type d'activité. Donc bref, il y a tout un tas de propositions, et vraiment, les deux parlementaires ont fait une consultation très générale. Ils ont parlé à plein de gens hyper sérieux dans le domaine de l'e-sport. Ça a été consultatif au meilleur sens du terme. Ils ont parlé aux gens de gaming, à Kayane, enfin, plein de gens comme ça qu'on connaît, nous. Et j'ai l'impression vraiment qu'ils ont sorti des propositions. Ensuite, le gouvernement va voir ce qu'il en fait de ces propositions. A priori, tout le monde est content, tout le monde est d'accord, donc ça devrait bien se passer. Mais ils ont sorti des propositions qui, moi, me semblent être parfaites. C'est exactement ce dont on avait besoin. Je ne sais pas si toi, Christophe, c'est un truc qui te parle, vu de la Suisse, parce que, bon, avec la Gaming Federation, vous faites des choses aussi. Je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes, mais...
Pas vraiment, vu qu'on est une association à but non lucratif. Donc, mis à part... du matériel qu'on reçoit, on reçoit rarement de l'argent. Vu qu'on fait pas ce business, on n'a pas ce genre de problème-là. Par contre, on n'a pas de cadre en Suisse. En tout cas, s'il y en a un, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas actuellement. C'est surtout le tissu associatif qui gère tout ce qui est au niveau e-sport en Suisse, même si c'est assez anecdotique en comparaison de la France.
Oui, bien sûr.
Mais par nature, typiquement, tu parlais du floutage des marques pour la télévision. En Suisse, on ne floute pas les marques.
Ah oui, donc vous n'avez même pas les mêmes problèmes à la base, quoi.
Voilà. Y a des différences très subtiles. Et du fait de la structure de la Suisse, faire quelque chose de global... Je sais pas comment ça pourrait se faire. Par contre, pour l'e-sport actuellement, comme je l'ai dit, c'est surtout des petites associations qui maintiennent et créent de l'e-sport en Suisse.
Ouais, d'accord. Bah, à vrai dire, en France, c'est vrai que ça commence à se professionnaliser, mais c'est encore relativement modeste. Par contre, on voit tous que c'est dans une trajectoire en hausse constante et assez importante. Mais donc, toutes ces propositions, moi, j'ai eu l'impression que l'une des raisons pour laquelle je voulais en parler, c'est d'une part parce que c'est de l'e-sport, et puis surtout, j'ai l'impression que c'est parfaitement cohérent la manière dont c'est fait, et j'ai presque l'impression que c'est rare, surtout quand on parle de jeux vidéo, de voir le gouvernement qui vient s'en mêler, et que ça soit pas ensuite la catastrophe, quoi, qu'on se dise mais ils ont rien compris, ils ont...
Alors non. ça, c'est que le début, c'est après, c'est une fois qu'ils ont pris les choses en main et qu'ils ont voté les lois, que là, c'est la catastrophe.
Non, parce que bon, là, ça paraît, c'est un peu bizarre qu'en tant que Suisse, on y a une proposition du gouvernement français, qu'il y a les Français qui ne râlent pas, justement.
Bah, voilà, c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, à ce stade-là, j'ai l'impression que tout est bien compris. Ils ont bien compris les problématiques. Les deux donc parlementaires avaient l'air de vraiment s'impliquer dans le truc et de pas du tout... Ils n'ont pas pris le problème de haut, ils n'ont pas pris les gens pour des imbéciles, ils ont vraiment essayé de comprendre de quoi il s'agissait, ils se sont complètement éloignés des problèmes habituels qu'on a quand le public général s'intéresse aux jeux vidéo et à l'e-sport. Ils ont même pointé du doigt les moqueries qu'on peut entendre, genre c'est des gens qui ne sortent jamais, ou ils disaient c'est hyper social, c'est hyper convivial, etc. Enfin, Je vois pas comment ça pourrait déraper. Alors bien sûr, je dis ça maintenant, ça se trouve ça va complètement déraper, mais je vois mal comment ça pourrait déraper, parce que tout le monde, c'est vraiment la victoire du bon sens, en fait. J'ai l'impression, toute cette histoire.
Ça paraît à la limite, ça paraît être une exception qui travaille justement dans le bon sens. Vu des problèmes que subit la France actuellement. Mais c'est franchement, vu depuis la Suisse et en lisant ce qui se passe, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un gouvernement des personnes du gouvernement français qui, justement, font une manière, comme tu l'as décrit, qui vont voir les différentes
enfin, les membres de la communauté, quoi.
Ouais, et qui s'en inspire. Ça fait vraiment plaisir à voir, de voir quelque chose de vraiment très intelligent, de vraiment posé, qui fait sens aussi.
Et vous, mais dis-moi, toi, vous n'avez pas ce genre de problème du tout en Suisse? C'est curieux, tu m'as dit non, on n'a pas ce genre de souci, mais vous organisez des compétitions, il n'y a jamais de gains dans les compétitions? Il n'y a jamais de gens qui viennent de l'étranger pour participer ou...
Pas vraiment, enfin, en tout cas pas que j'en sache. On organise la Ligue Suisse au niveau des jeux Nintendo, mais on a Nintendo derrière pour nous en tant que co-organisateur. Mais vu qu'on brasse pas de l'argent...
Mais les gens qui gagnent les tournois gagnent pas d'argent, en fait?
Alors, ça dépend lesquels. On a remis en place un tournoi Hearthstone où il y a des cash prizes, mais ce genre de situation n'est pas encore arrivée.
Ben oui, mais tu vois, même quand ils gagnent de l'argent, eux, est-ce qu'ils savent comment ils doivent le déclarer, cet argent? Est-ce que
Franchement, je pense que c'est une bonne question et qu'actuellement, c'est encore toléré en Suisse parce que c'est des prix quand même anecdotiques. On parle d'une centaine de francs suisses à... au maximum 2500 francs suisses. C'est pas des cash prize à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs. C'est quand même assez anecdotique. Si on commence, c'est pas assez haut pour figurer sur une déclaration comptable ou une déclaration fiscale.
Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui tape sur son clavier ou...
Pardon.
Ouais, effectivement. Donc là, à ce niveau, ça reste quand même relativement raisonnable. C'est vrai qu'on a en France, on commence à avoir des compétitions où les gens gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et là, c'est surtout, il y a des gens qui sont professionnels et qui vivent de ça. Donc forcément, ou au moins en partie, quoi. Donc ça commence à devenir.
Mais ça, tu soulèves quand même une bonne question. Et je pense surtout pour moi, ça concernerait plus les dons faits par Twitch. Parce que dans les fêtes, est-ce que le fait de recevoir de l'argent donné, parce que c'est une donation, est-ce que cela est sujet à un impôt?
Bah oui, bien sûr. C'est même, à vrai dire, la question du don en France est encore plus floue, parce que normalement, un don fait à une société est imposé à 60%. Donc, c'est très complexe, et c'est pour ça que la manière dont c'est géré, ça doit être... assez subtil, c'est compliqué à gérer, quoi. Moi, je me suis arraché les cheveux pour gérer ça et être dans les clous, justement, avec le financement des émissions, et c'est vrai que c'est pas facile. Donc si jamais il simplifie les choses, moi j'espère que ça va pouvoir m'affecter aussi. Mais bon, bref, en tout cas, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Moi, je suis plutôt agréablement surpris par ce rapport. Et peut-être qu'enfin, tout s'est bien passé dans cette histoire. De la consultation publique pour la loi numérique, à la mission des parlementaires, à la remise du rapport, aux impressions des gens de la communauté. Enfin, j'ai l'impression que tout s'est bien passé. J'espère que ça va continuer à bien se passer et que Daniel ne sera qu'un oiseau de mauvais augure en nous disant que c'est au moment du passage dans les lois.
Ah, moi je suis persuadé que ça va mal se passer.
Tu crois?
Ah bah oui, je pense que dès qu'on essaye de légiférer, ça crée un problème. Tu regardes sur un problème plus complexe comme l'immobilier, dès qu'il s'agit de faire des modifications dans les lois pour apporter des aides à la location ou à la propriétariat, tout d'un coup ça devient un truc vachement plus compliqué et les gens se répercutent sur comme ils savent qu'il y a des donations, comme ils savent qu'il y a des fonds versés, tout d'un coup, ils augmentent les prix et en fait, ce que tu voulais réguler, tu en perds le contrôle. Et moi, tu me dis que l'État veut fourrer son nez dedans. Ok, je pense que tu vas en perdre le contrôle et juste ce que tu vas obtenir, c'est qu'ils imposent ceux qui resteront en France, quoi.
Bah le problème c'est que
assez négatif, hein.
Je constate. Le truc c'est que là, il y a pas de cadre légal du tout. C'est ça qu'il faut voir, il y a pas du tout de cadre légal et donc tout ce qui est en train de se fait en gros dans l'illégalité. Et ce qu'ils veulent faire
Juste corriger, il y a un cadre légal. Ils sont soumis à l'autorité de régulation des paris, hein, actuellement.
Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est des jeux d'argent. Normalement, c'est considéré comme des jeux d'argent. Et les jeux d'argent, c'est des trucs beaucoup plus compliqués que... Enfin, il est évident que les jeux d'argent ne correspondent pas à de l'e-sport. Pour les jeux d'argent, par exemple, il y a des questions de...
D'addiction ?
D'addiction, bien sûr, les mineurs peuvent pas participer, il y a des régimes d'imposition très spécifiques, enfin, c'est très très compliqué. Et évidemment, enfin, c'est un non-sens d'assimiler l'e-sport à des jeux à de la loterie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de le regarder, d'établir un vrai cadre légal. Alors ensuite, peut-être que ça peut déraper, mais là, je vois pas comment s'ils suivent ces recommandations. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il disait avec beaucoup de justesse, c'est qu'il faut être très prudent parce que quand ils ont dit avoir reçu, par exemple, les loteries nationales, le PMU, etc. Et ils disaient, si on veut sortir du cadre légal ce genre d'activité, eux, ils ont les yeux qui brillent tout de suite parce qu'ils se disent, comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter le truc pour faire entrer nos jeux d'argent dans ce nouveau cadre aussi. Et c'est sur ça qu'il faut être prudent, effectivement. Donc, il faut faire les choses bien à ce niveau-là également. Mais bon, si on fait les choses de manière un tout petit peu logique, et je pense que quand c'est établi pour la première fois, c'est possible. Ça devrait bien se passer. Maintenant, peut-être que je me trompe, j'espère pas, mais on verra. Enfin bon, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était de savoir, de mettre à jour toutes ces questions de l'assimilation au jeu d'argent, les gains des mineurs, la pub à la télé, mine de rien, ils vont travailler sur ça avec le CSA. C'est tout bête, hein, mais si ton sponsor, il peut pas être affiché, ton maillot avec tes sponsors va pas être affiché à la télé quand tu y es passé, oui, effectivement, les sponsors vont être moins intéressés, donc ça handicape le développement. Et puis, d'une manière générale, le problème quand il n'y a pas de cadre légal, c'est que les investissements, les gens qui veulent s'investir financièrement et autrement dans l'activité vont être beaucoup plus peureux, vont être beaucoup plus frileux parce qu'ils se disent « Ouais, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas comment ça marche. » L'incertitude est très néfaste à l'économie. Et là, ils veulent lever l'incertitude. Donc moi, je pense vraiment que tout ça était très bien... envisagé jusqu'ici. J'espère que ça va continuer, quoi. Bon, ok. On a épuisé le sujet, je pense. On va passer à la PlayStation VR. La PlayStation VR a eu une annonce à la GDC il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on sait maintenant combien elle va coûter et la date de sortie. Ça sera en octobre de l'année prochaine pour 400 dollars. J'ai même pas regardé les prix en euros.
Tu dis la PlayStation VR.
Oui, ou le PlayStation VR.
Je sais pas, moi je dis le, mais par pure habitude. Ouais,
pareil, le.
Bon, alors le, on fait, vous voyez, on est en démocratie, on vote, et la majorité a raison. Donc le PlayStation VR.
Le référendum suisse.
C'est ça.
Exactement.
Donc c'est autour de 400 euros, sans PlayStation Caméra, enfin, qui est obligatoire. Donc, entre parenthèses, ça peut coûter plus cher si vous n'avez pas de PlayStation Caméra, mais le prix planché.
Et un PlayStation Move que tu as peut-être encore gardé de ta génération PS3.
Alors ça, c'est pas obligatoire. Tu peux jouer avec ta manette. Mais effectivement, à vrai dire, pour l'utilisation optimale, il faut 2 PlayStation Move même.
Mmh. Et puis, donc, il faut quand même avoir de l'espace aussi. Hein, parce que si on prend un Move et puis on commence à poser son casque, il va falloir bouger, il va falloir ça.
Bon, pas forcément. Tu peux rester sur ton canapé et bouger.
J'ai l'impression que ça demande moins de place qu'un Kinect, quoi.
Moins de place qu'un Kinect, moins de place qu'un HTC Vive avec lequel tu peux te déplacer. Mais le plus intéressant dans toute l'histoire, à mon sens, c'est le prix. Parce que moi, oui, c'est un petit peu plus cher que même que la PlayStation elle-même, mais c'est tellement moins cher que les autres casques de réalité virtuelle que pour moi, ça me confirme dans mon opinion que Sony a vraiment un gros avantage dans cette bataille. Avec une machine à 450 euros, on va dire, contre, on est à combien ? 700 pour l'Oculus Rift, en tout cas. Et pardon ?
En fait, ce qui a été relevé, c'est qu'un setup complet PlayStation VR bundle avec un Call of Duty, par exemple, de ta PlayStation 4, plus encore ta caméra, coûte moins cher qu'un Oculus Rift ou un HTC Vive. Parce que... pour faire tourner un Oculus Rift et un HTC Vive, il faut aussi compter un ordinateur à l'intérieur.
Bien sûr, et un ordinateur qui n'est pas bon marché. Donc, pour moi, je pense vraiment que, étant donné que Sony a réussi à mettre dans ce PlayStation VR l'essentiel de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que, oui, c'est beaucoup moins bien techniquement que les autres casques haut de gamme, mais on réussit quand même à créer l'effet waouh de la PlayStation VR, l'effet waouh de la réalité virtuelle, et c'est ça qui est essentiel. Et comme ils y arrivent, je pense que ils ont l'important, et donc si la réalité virtuelle arrive quelque part, eh ben Sony est quand même bien positionné. Daniel, je sais pas si toi tu l'avais essayé.
J'ai essayé plusieurs des casques. Moi, c'est un truc qui me tombe un peu des mains, c'est littéralement. Parce que moi, j'ai pas le waouh effect.
Des casques, en fait, ça te fait rien, toi, la réalité virtuelle ?
Non, en fait, c'est que je me pose toujours un terme de qui va payer ça ? Qui va payer ça ? Quelles vont être les applications ? Quels vont être les jeux ? Et Sony, au moins, a un avantage, c'est que ils ont le soutien des éditeurs, quoi. Ils ont le soutien parce que c'est la console qui marche le mieux. Il y a plein de choses, mais j'oublie pas aussi un truc, c'est que tu vois le Kinect, j'en parlais tout à l'heure. Kinect, il y en a eu 10 millions, il y a eu 10 millions de Kinect distribués dans le monde. Il y a eu zéro jeu emblématique dessus, quoi.
Si, Just Dance.
c'est vrai que Just Dance, il marche bien, mais bon.
T'as eu Just Dance, mais tu vois, donc, du coup, moi, je me pose toujours en termes de questions grand public, et je suis toujours pas certain. Que le grand public va souscrire à ça et qu'il y aura des jeux ensuite, quoi.
Ils
vont peut-être faire un blitzkrieg sur les premiers jours et après ça va se tasser et pendant un an les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il y a dessus et au bout d'un an ils vont le laisser tomber.
Il y a plein de gens qui se posent cette question et qui disent voilà, c'est un petit peu comme le motion gaming, ça va se vendre peut-être, mais au final il y aura pas de jeux. C'est une possibilité et c'est une possibilité que j'écarte pas. Mais par contre, je pense que si ça marche, d'une part, je suis convaincu qu'il y aura plus d'applications que sur le motion gaming. Ça, j'ai jamais vraiment cru au motion gaming. Et la réalité virtuelle, je pense qu'il y a des applications bien plus intéressantes en jeu ou ailleurs que sur le motion gaming, ou même que sur la 3D. Il y a plein de gens qui font la comparaison avec la 3D. Moi, je trouve que c'est très naïf de faire ce genre de comparaison. Et si jamais ça prend, même s'il y a un point d'interrogation dessus, si jamais ça prend, ce que je me dis, c'est que Sony est beaucoup mieux positionné que les autres, d'une part parce qu'ils ont le soutien d'éditeurs, même si on peut se dire que sur PC, les gens qui ont des PC de jeu, c'est des gens qui sont très adeptes du jeu vidéo et donc qui seront peut-être plus prompts à s'intéresser à des nouvelles technologies comme la PlayStation, comme la réalité virtuelle, que sur Sony où il y a plein de gens qui l'achètent que pour jouer à Call of Duty et FIFA et basta. Mais moi, je pense quand même que vu la puissance de frappe de Sony, qui est quand même beaucoup plus importante que celle d'Oculus ou même de HTC avec le Vive. Et puis, un truc que m'a rappelé mon ami Danny, le réseau de distribution de Sony, la PlayStation VR, elle va être partout, dans toutes les Fnac, dans tous les Darty, ça va être disponible partout. L'Oculus, il faut le commander par Internet, pareil pour le Vive. Donc ça va être très 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 différent, à mon sens, la manière dont ça va envahir le marché. Donc c'est pour ça que je me dis qu'ils ont vraiment un avantage sensible chez Sony avec ce PlayStation VR, en plus même du prix. Christophe, pardon, je t'ai interrompu.
En fait, t'as très bien résumé. Sony a la logistique et l'expérience derrière pour sortir des périphériques. C'est clair, ils ont un avantage indéniable. Donc en comparaison d'HTC Valve, Valve qui jusqu'à il y a 3 ans n'avait jamais fait un périphérique, on voit déjà que les Steambox, ça prend pas non plus. Leurs manettes et leurs produits chez Valve, ça prend pas parce qu'ils n'arrivent pas à les distribuer correctement. Oculus, là, je viens de voir qu'il y a le fondateur d'Oculus vient de s'envoler en Alaska pour aller livrer le premier Oculus.
C'est vrai qu'ils sont en train d'être livrés, les premiers Rift, là, ouais.
C'est clair. Sony a un avantage indéniable là-dessus. Ils ont le réseau de distribution, ils ont la logistique. Et je pense comme toi, si la VR doit entrer dans un salon, ça va être par Sony, clairement.
Et puis pour moi, ils ont Ace Combat,
c'est ça qui va te... Je me demande si...
Non, mais vraiment,
s'il
y a un jeu qui m'intéresse dessus, c'est déjà fantastique par rapport aux autres, quoi.
T'as essayé Valkyrie ?
Non, j'ai pas fait Valkyrie. J'ai fait beaucoup de proto de jeux dont je peux même pas te citer les noms.
C'est
l'année dernière, mais j'ai pas fait les gros trucs de cette année.
J'ai participé à l'alpha d'El Valkyrie et c'était juste magnifique. J'ai un Oculus Rift et l'expérience est juste géniale.
Mais je crois qu'il y a quelques
jeux. Tu vas l'acheter?
Le DK2, non, l'Oculus Rift, ouais. Je pense pas.
Ouais.
Ouais, ça dépendra du budget.
T'as déjà un Oculus premier development kit, c'est ça?
Non, le DK2, le deuxième.
D'accord, ok. Ouais, mais à vrai dire, il y a ces expériences-là qui vont être très clairement intéressantes sur réalité virtuelle. Ensuite, la question, est-ce qu'on peut jouer dessus pendant 2 heures et pas être fatigué, c'est une autre question. Mais le truc qui m'a le plus interpellé à la GDC, c'est que, bon, d'une part, la GDC était entièrement consacrée à la réalité virtuelle. C'était incroyable. Tous les développeurs, pour ceux qui savent pas, la GDC, c'est la Game Developer Conference. Et c'est vraiment l'endroit où se retrouvent tous les développeurs pour discuter de ce qu'ils font, discuter de comment ils le font et savoir comment ils vont s'intéresser à, enfin, de quoi va être fait le monde du jeu vidéo dans les années à venir. Et ben là, ils parlaient que de réalité virtuelle. C'était impressionnant. Mais ce qui m'a vraiment intrigué, c'est que les jeux qui, selon les gens qui ont testé tout ça, les jeux qui fonctionnaient le mieux, c'était pas des jeux à la première personne, sauf pour les jeux genre quand on est dans un robot ou dans un tank ou dans un vaisseau, là oui, quand on est dans un cockpit, bien sûr, c'est adapté à la réalité virtuelle, mais au-delà de ça, c'était pas les jeux à la première personne, mais des jeux à la troisième personne qui étaient plus réussis pour les gens qui les essayaient. Et c'est surprenant, c'est contre-intuitif en fait, comme on dit en anglais, parce qu'on se dit, bah oui, on a le truc sur la tête, on a le truc devant les yeux, bah, c'est forcément les jeux à la première personne qui vont fonctionner. Et bah en fait, non, les jeux qui fonctionnaient le mieux, c'était les jeux à la troisième personne. Il y en avait plusieurs et c'était ceux-là qui étaient le plus efficaces et qui étaient les plus immersifs, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment toute une période d'apprentissage de la réalité virtuelle qui va devoir être faite, comme on a dû apprendre, je le dis souvent, comme on a dû apprendre des trucs tout bêtes avec la 3D, mais le placement des caméras dans les univers en 3D au moment de la sortie de la PlayStation 1, de la Saturn, de la Dreamcast, etc., c'était compliqué. Ça a pris des années à savoir comment gérer ces nouveaux univers de jeux vidéo en 3D. Et le placement de caméras était un gros problème pendant longtemps. Bah là,
je sais, Patrick, ça va être... moi je vis dans l'éternel souvenir de Mario 64, le jour où j'ai eu ma N64, jour de sa sortie japonaise, et que tout d'un coup il fallait appréhender un nouveau monde, et je sais que jamais je ne retrouverai cette sensation dans ma vie, et c'était extraordinaire.
Bah, peut-être, bah, s'il y a un truc, ouais, vas-y, finis, et puis je vais suivre.
Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je sais que jamais je n'aurai un truc à nouveau comme ça, et que maintenant, on rentre dans une étape où, bah, il faut te mettre l'écran au bout des yeux pour que tu aies des impressions ou des... tu vois, moi, la 3D, par exemple, ne serait-ce que la 3DS, elle a toujours été débranchée chez moi. J'ai jamais pu souscrire à ça. Et je crois que la dernière étape pour moi, c'était la 3D tout court. Et après, je suis pas fou de la 3D qui m'est collée sur les yeux, en fait.
Mais je crois que, bon, d'une part, tu es d'un cynisme ahurissant.
C'est incroyable,
ami,
hein.
Non, mais c'est fou.
Alors, moi,
mais
qui est toujours positif. Mais je peux te parler de Mitomo. Je peux te parler de Mitomo, si tu veux.
Bon, on y viendra en fin d'émission, mais pardon, Christophe.
Je disais que pauvre Dani qui est blasé de la vie, là.
Non, mais vraiment, parce que il y a cette tendance à se dire, ah bah le motion gaming ça a pas marché, la 3D sur les télés ça a pas marché, la 3DS personne l'a jamais utilisé en 3D, donc la réalité virtuelle ça va pas marcher non plus. C'est une sorte de loi des séries à laquelle on peut souscrire, mais la réalité marche complètement différemment. Ça se trouve ça va pas marcher la réalité virtuelle, mais se dire que ça va pas marcher parce que les trucs qu'il y a eu avant n'ont pas marché ou n'étaient pas intéressants, c'est vraiment ce ne pas raisonner logiquement, quoi. Là, on est sur un truc complètement différent. Et à mon sens, tiens, je vais essayer de te faire rêver, Daniel. Ah, effectivement, oui. Il y avait eu de la 3D dans plein de la 3D avec plein de différents jeux, plein de différentes expériences. Mais le jour où Nintendo s'y est intéressé, c'est vrai que Mario 64 sur Nintendo 64, c'était la première fois qu'on avait, bah, justement, ils résolvaient tous ces problèmes de caméra, de placement, de déplacement avec leur manette, mine de rien, c'est tout bête, hein. Mais la manette 3D, c'est la dernière innovation matérielle que Nintendo a fait qui a envahi le monde. C'était le petit joystick 3D sur les manettes. Imagine une console avec de la réalité virtuelle de Nintendo, avec un Mario qui te plonge dans l'univers de Mario en réalité virtuelle et qui se contrôle bien et qui est agréable et qui fait sens dans cet univers. Ça te et fait pas un petit peu envie, ça ?
Why not ? Je suis complètement ouvert. Le seul truc, c'est que je sais pas si énormément de gens auront les moyens de s'investir à un truc comme ça pour chez eux. En plus,
ça sera la deuxième génération, ça sera beaucoup moins cher. Là, on est vraiment chez les pionniers, quoi.
Et en plus, le simple fait qu'on peut y jouer que tout seul.
Oui, mais combien de fois tu joues avec quelqu'un à côté de toi ? Oui, c'est super cool quand tu peux.
C'est pas du tout le concept Nintendo, quoi. C'est genre maintenant.
Que tu pourras avoir quelqu'un avec toi dans le monde. Ouais, bon.
Ouais. Bah écoute.
Autre question, Daniel. T'avais quel âge quand t'as joué à Nintendo à Mario 64 ?
C'était 96. J'avais 19 ans.
Ah bah voilà, t'étais encore tout jeune, tout frais, t'étais impressionnable. Et c'est pour ça que ça t'a tellement marqué. Aujourd'hui, t'es trop vieux et blasé.
Ah mais je reconnais. non, mais après, là, on parle... Le truc, c'est que, de mon expérience, j'ai jamais eu une grande foi dans les add-ons. C'est-à-dire, et là, le PlayStation VR est un add-on de la PlayStation 4. Et j'ai toujours du mal à... Enfin, et non, et c'est juste une constatation. Tous les acheteurs de PlayStation 4 vont pas acheter un PlayStation VR, donc tu segmentes un marché. Et combien de gens vont investir encore le même prix pour avoir un truc en plus ? C'est ça mon interrogation en fait.
Ouais, c'est sûr que c'est une question très valable, oui, c'est certain. Mais moi j'y crois.
Et peut-être que ça viendra. Peut-être que si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine.
Peut-être que quand le bundle PlayStation plus PlayStation VR sera à 500€ pour le tout, avec toutes les manettes et tout, ça commencera à devenir intéressant. Je veux y croire. Et d'ailleurs, tiens, à propos de matériel, cette histoire de PlayStation 4.5 ou PlayStation 4K semblerait être plus qu'une rumeur. On en a entendu parler un petit peu ici et là. Ça serait une version mise à jour de la PlayStation. C'est marrant parce qu'on parlait de version mise à jour de la Xbox One il y a deux semaines à peine. Eh bien, Sony considérerait l'idée de mettre à jour la PlayStation 4 avec une version 4K, en fait, qui jouerait les Blu-ray 4K et qui serait capable d'afficher du contenu 4K. Sur les jeux, ça changerait pas vraiment, mais peut-être qu'il y aurait la possibilité d'upscaler en 4K les images, pourquoi pas, et puis plus de puissance pour la réalité virtuelle aussi. Donc, les PlayStation actuelles continueraient à tourner sans problème avec tous les jeux et avec la réalité virtuelle également, mais avec la PlayStation 4K, on aurait peut-être, comme je le disais, le contenu Blu-ray 4K et la possibilité de brancher sur des télés en 4K, peut-être de l'upscalage sur les jeux classiques, mais ça n'améliorerait pas forcément la qualité des jeux existants, et puis un petit peu plus de puissance pour la réalité virtuelle. C'est un petit peu l'idée qu'avait évoqué Major Nelson avec la Xbox One mise à jour tous les 2, 3, 4 ans, quoi.
Et puis ça te permet de baisser les prix.
Aussi.
Ce qu'on appelle dans le jargon les clous du cercueil de la Xbox One.
Peut-être.
Non, mais ils sont de toute façon obligés de changer leur matériel, leur hardware, s'ils veulent donner une expérience VR acceptable. Hein. Si vous regardez les specs minimum pour l'Oculus Rift, aucun MacBook ou Mac Pro n'arrive à avoir la puissance de calcul suffisamment.
Qui joue sur un MacBook ou un Mac Pro ? Quelle idée !
Il y a du monde.
L'appareil que j'utilise pour vous appeler, c'est un Mac Mini vieux de 3 ans.
C'est ça, et il est bon pour Skype et pas grand-chose d'autre.
Voilà.
J'arrête
Google
de troller.
Mais... en 6 minutes avec.
Mais... non, mais cette histoire, à mon sens, c'est une fausse... C'est un faux débat, l'idée de se dire « Ah, la PlayStation peut pas afficher de la réalité virtuelle correctement ». C'est faux, c'est totalement faux. C'est comme l'idée de se dire « Ah, il peut pas y avoir de bons jeux sur, je sais pas, PlayStation 3 parce que la PlayStation 4 est sortie ». Non, les graphismes seront moins bons, mais ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de bons jeux, surtout si le prix de l'alternative fait 3 fois le prix, quoi.
Je comprends ton point de vue, Patrick, mais il y a des restrictions techniques que tu peux pas échapper. D'ailleurs, à cause de ça, je sais pas si t'as vu passer la news, mais tous les jeux qui ne sont pas garantis 60 FPS sont automatiquement rejetés par Sony dans leur catalogue VR.
Tout à fait, parce que la réalité virtuelle, il faut un lag minimum et il faut au moins 60 FPS et de préférence 90. 90, oui. De préférence 90. C'est ce que, et la PlayStation VR, bah, bien sûr, mais la PlayStation VR peut faire ça. Toute, n'importe quelle machine peut faire ça. Vous prenez une 3DS, elle peut vous calculer deux images en 90 images secondes par œil. Sauf que ça sera des images complètement pourries. La question de la puissance de calcul, c'est une question de curseur. Tu mets le curseur plus du côté de du nombre d'images par seconde, moins la complexité des graphismes sera élevée. Mais tu peux tout à fait faire ça. Et la PlayStation 4 a suffisamment de puissance pour te calculer des images, allez, on va dire de qualité genre PlayStation 3, en 90 images secondes, pour chaque œil. Bah, voilà, la PlayStation 3, à mon sens, il y a 3 ans, on jouait à des jeux comme ça, on n'avait pas non plus des attaques cardiaques parce que c'était tellement moche. Et si l'avantage que tu as, c'est un prix 2 fois moins élevé, voire 3 fois moins élevé, et une expérience de réalité virtuelle fluide qui te fait pas vomir et qui te donne cet effet waouh de la réalité virtuelle où t'as l'impression d'être dans un autre monde, ça fonctionne. Ensuite, oui, bien sûr que si on pouvait avoir une qualité incroyable d'un PC de gamer à 1 500 € avec un Oculus Rift avec une résolution incroyable sur l'écran à 700 € aussi, oui, si tu pouvais avoir pour 2 200 € ton expérience incroyable sur ta PlayStation 4, bah ça serait encore mieux. Mais ça veut pas dire que la PlayStation 4 va pas réussir dans la réalité virtuelle parce qu'elle a des moins bons graphismes, parce qu'elle a des graphismes de PlayStation 3. C'est un argument qui m'irrite, comme vous le comprenez.
Oui, je comprends, mais je dis pas que ça va pas réussir, mais moi, en tout cas dans mes goûts personnels, si les graphiques sont trop mauvais, ça va pas du tout, je vais pas du tout faire le pas pour aller payer 500 € et puis mettre plus d'argent, peut-être attendre aussi plus longtemps pour avoir un HTC Vive ou prendre l'Oculus Rift. Surtout que c'est pas... Il y a pas mal de contraintes, les jeux... Mis à part Eve Valkyrie, les autres jeux que j'ai fait en VR ne sont pas super top. Hein.
Au niveau, ça, c'est une autre question. Qualité. Ça se trouve, la VR, ça va être une heure de Eve Valkyrie et d'un autre jeu du genre. Puis tout le monde va en avoir marre et tout le monde va se dire « Ouais, bon, c'est n'importe quoi, je reprends ma souris et mon clavier et je vais jouer à Overwatch, quoi. » Possible. Mais ça, c'est une autre question, à la limite. Il y a 2 questions différentes. Est-ce que la PlayStation 4 peut faire de la VR correcte? Moi, je pense que oui. Certains disent que non. Et ensuite, l'autre question, c'est est-ce que la VR, ça sert à quelque chose? Visiblement, Daniel dit « moi, je pense pas ». Moi, je dis « je pense que c'est possible ». Mais ces 2 questions, on n'a pas encore les réponses, mais c'est 2 questions complètement séparées. Et les gens mélangent souvent les deux. Donc, bon, bref. On tourne en rond sur la réalité virtuelle. Je pense que on a couvert les opinions et les objections de tout le monde là dans notre petite demi-heure. Donc j'espère que tout le monde se sentira.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Inclus dans la conversation. Il y a aussi la question du cross-platform entre Xbox et PlayStation. Microsoft disait « Oui, nous, on veut bien le faire, il n'y a pas de problème. » Et Sony a dit « Nous, on travaille déjà depuis longtemps sur le cross-platform avec le PC. Donc, oui, peut-être, on ne sait pas. Genre, oui, non, on veut pas trop parce qu'on a plus de consoles que vous. Donc, on veut pas vous donner cet avantage. Donc, on ne sait pas. Rocket League est prêt à partir avec du cross-platform Xbox-PlayStation. Mais visiblement, politiquement, c'est pas encore fait. » Il y a un petit peu de pression sur les deux constructeurs. Peut-être que ça arrivera un jour.
Non, moi, j'y crois de toute façon. C'est vraiment pourquoi ne pas le faire.
Bah, pourquoi? Parce que Sony garde son avantage du nombre de consoles sur cette génération.
C'est... Mais les devs sont intéressés. Il y a eu, il me semble que c'était pour Grand Theft Auto 4. Les devs avaient approché, enfin Rockstar avait approché Sony dans l'idée d'avoir une plateforme online unifiée. Et Sony avait dit no way, impossible, on veut pas que le joueur de votre jeu, les joueurs PlayStation jouent avec d'autres joueurs.
Bah, c'est oui, non, mais tu réponds toi-même à ta question. C'est on s'en fout que le développeur et que tous les joueurs du monde, moi y compris, voudraient que ça se fasse. Enfin, on s'en fout, non, mais c'est pas ça qui est essentiel dans la question. Ce qui est essentiel, c'est ce qui au final ce qui compte, c'est est-ce que Sony accepte. Et visiblement, Sony n'a aucun intérêt financier à accepter. Donc, à
moi,
moins qu'il y ait
déjà joué avec mes potes sur PC à The Division, mais c'est pas possible.
Bah, voilà déjà.
Tu arrives à jouer à Division, c'est déjà ça.
Oh, ah, ça a duré une journée là, les problèmes.
J'adore Division, j'ai jamais eu de problème à Division et j'y joue avant sa sortie, depuis avant sa sortie.
Ben voilà. Oui, non, les mauvaises langues, Christophe. Les Suisses, je pensais qu'ils étaient un petit peu plus neutres que ça, je suis déçu.
Non, bon, c'est peut-être leur connexion internet, hein, je sais pas.
Ah, c'est possible, c'est possible.
J'ai un grief envers ce jeu.
Ah oui, d'accord. Bah, moi, je l'ai essayé finalement après la dithyrambe à laquelle j'ai eu droit à l'épisode précédent. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. J'ai juste joué, je sais pas, peut-être 3 heures, hein. Donc, je suis vraiment au début encore.
Au début, j'ai pas aimé. Et après, soudain, j'ai eu comme une illumination. C'est la suite de Parasite Eve. Et là, tout s'est bien passé.
tout se rapporte toujours à un jeu japonais. Voilà. Avec Daniel.
Et là, tout d'un coup, je l'ai pris complètement différemment et c'était génial.
Bah, écoute, tout le monde adore, hein. Je suis l'un des rares à ne pas rentrer dedans encore. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est l'anti-Destiny. C'est-à-dire que The Division, c'est tout est super à part le gunplay, à part vraiment le cœur du gameplay qui est un petit peu moyen. Destiny, tout était pourri à part la sensation que t'avais quand tu shootais des aliens dans la tête. Là, tout a l'air super bien fait à part donc cette sensation que t'as quand tu es au cœur du jeu, quoi. Mais
il est tellement calqué sur Destiny, c'est vrai que tu pourrais.
Sauf qu'ils ont réussi tout ce qu'il y a autour, quoi.
Ouais.
Mais ouais, je sais pas. Je vais continuer à jouer, hein. Je vais continuer à m'y intéresser parce qu'il est tellement populaire que forcément je veux comprendre, mais bon. Bon, bref, là, il y avait quelques trucs en plus à la GDC. Je pense qu'on va faire l'impasse dessus et continuer avec nos news habituelles. Avant ça, quand même, un gros merci plutôt à Calus2607 qui nous dit sur iTunes que l'émission est passionnante. Il nous a laissé une petite review et Nerada nous dit que l'émission est immanquable, donc merci à tous les deux d'être venus sur iTunes et de nous avoir laissé des reviews à 5 étoiles. Et si vous voulez faire comme eux et aider l'émission, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou n'importe lequel de vos catalogues de podcasts, hein, bien sûr, et laisser une petite review avec des commentaires. Ça serait super sympa de votre part, ça aide l'émission à remonter dans les classements et à être découverte par d'autres auditeurs encore.
Patrick, est-ce que c'est le bon moment pour faire un coup de promo ou je fais plus à la fin?
Bah écoute, on fera à la fin plutôt. On fera à la fin.
D'accord. Parce
je sais que tu es en train de lancer une nouvelle émission.
Je sais que le iTunes Games, les étoiles, tout ça, c'est tout un monde nouveau pour moi. Je suis assez excité.
Juste pour la répétition du truc, dis-nous juste le nom de ta nouvelle émission et puis on.
Ça s'appelle After Hate et c'est disponible justement sur iTunes.
Magnifique.
Sur afterhate.fr. On a essayé SoundCloud et tout ça. Et,
super. Et, After Hate.
Et c'est un talk show avec mon camarade Quick qui se trouve à Los Angeles. Voilà, on est toujours en.
D'accord.
Avec plus de 8 heures de décalage. Donc,
tu nous donnes les détails en fin d'émission. Mais
voilà,
ça
merci.
S'appelle After Hate. Voilà, comme ça, c'est le nom est en train de rentrer déjà.
Merci.
Oh, c'est un jeu de mots sur After Hate.
Eh ouais.
Ah, d'accord, je viens de comprendre.
Pour travailler tout ça.
Ouais. Bon, une série de news quand même en plus. Alors, j'ai constaté à quel point l'année 2016, en plus d'être l'année de la réalité virtuelle, va vraiment être l'année de l'évolution des MOBA, des shooters MOBA, des MOBA 3D, etc. Si on fait la liste, c'est assez incroyable. Il y a Battleborn, Paragon, comment il s'appelle? Enfin, il y en a, je sais pas, peut-être, enfin, Overwatch, bien sûr, il y en a peut-être une dizaine, Paladins, quels autres? Gigantic, voilà, exactement. Enfin, il y en a des tonnes de jeux de ce genre-là. Et justement, j'ai eu l'occasion de tester Paragon, puisque c'est le jeu, c'est le MOBA en 3D de, d'Epic Games, qui est disponible en Early Access, Founders Pack, machin, si on paye. C'est un jeu, comment dire, un jeu en free-to-play qui sera disponible cet été, mais on peut déjà y avoir accès maintenant en payant. Et donc, moi, j'ai mis mes petits sous pour voir ce que ça donnait. Et donc, j'ai joué à Paragon. Et en gros, j'avoue, je crois que si vous n'êtes pas déjà fan de MOBA, je suis pas certain que ça sera un jeu pour vous, en fait. C'est vraiment, contrairement à d'autres de ces jeux en 3D qui font une sorte de MOBA shooter en 3D qui change un petit peu la formule, j'ai l'impression que Paragon reprend tellement la formule exactement du MOBA et l'adapte en 3D que c'est vraiment pour les gens qui étaient déjà fans du genre, quoi. Donc, bon, moi, j'ai été... c'est joli, c'est bien conçu, mais, enfin, j'ai fait des parties contre l'ordinateur et on a massacré l'ordinateur, évidemment, hein. C'était genre un kill toutes les 10 secondes et pourtant, la partie a pris une demi-heure, je crois, et on a vraiment massacré tout, quoi. Et genre, la partie la plus courte que tu puisses imaginer, ça va être 25 minutes, c'est... Et puis c'est un petit peu long, c'est laborieux, enfin c'est vraiment très 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 MOBA, c'est beaucoup plus MOBA que FPS. Donc bon, si vous êtes intéressé par les MOBA, peut-être allez y jeter un coup d'œil. Moi je vais continuer à regarder parce que c'est quand même un genre qui m'intéresse un petit peu et je veux voir ce qui s'y passe. Mais là ma première impression de Paragon n'était pas super super positive pour moi. Maintenant, j'ai souvent eu des jeux où la première impression n'était pas super positive et pour lesquels finalement j'étais super fan, mais là, je suis pas sûr. Donc, si vous voulez l'essayer, bah, il est disponible en Early Access si vous payez le Founders Pack. Il y a Battleborn qui arrive en Open Beta là, dans pas longtemps, dans un mois, y compris sur PlayStation 4. Donc, c'est aussi un jeu que vous pouvez essayer. Il y a Orcs Must Die Unchained qui est aussi, lui, une sorte de MOBA, mélange entre MOBA et Tower Defense, dont l'Open Beta commence bah, demain, au moment où on enregistre, le 29 mars. Et sur PS4 je crois aussi, enfin en tout cas il est dispo sur PC, donc si vous voulez essayer tout ça, bah voilà, vous avez de quoi faire. Des impressions sur ces MOBA shooter, c'est votre cam, vous avez des trucs à dire dessus ou c'est pas du tout votre...
J'étais invité à l'alpha et puis les serveurs voulaient pas de moi.
De quoi?
Pour Paragon.
Ah d'accord.
Bon. Et j'ai, d'après des potes qui ont pu jouer, qui sont assez familiers justement à ce genre de jeu, c'est l'analogie à faire la plus exacte, c'est un Smite.
Ouais,
Smite
ouais,
fait
vrai.
Par les développeurs de Doom. Ouais. Non, pas Doom.
Non, Epic, c'est Unreal.
Non. Oui.
Oui, c'est vrai. Bah, Smite, tout à fait. D'ailleurs, il arrive sur PS4 lui aussi. C'est exactement le MOBA 3D Smite. Donc, ouais. Bon, donc voilà. Destiny, on l'évoquait tout à l'heure, bah, y a une grosse mise à jour de printemps qui arrive le 12 avril. Y a une augmentation du niveau de lumière, etc. Moi, elle me paraît un petit peu légère, cette mise à jour quand même. Il y a la prison des anciens, le Prison of Elders qui est remis à jour. Bon, je sais pas si je vais me replonger dedans quand même. À ce moment-là, je ferai peut-être un petit tour, mais ça a pas l'air d'être une grosse mise à jour non plus. C'est une mise à jour de contenu avec enfin du vrai contenu. Il était temps, mais bon,
c'est de la transition. Est-ce que je peux juste dire que le 12 avril, on s'en fiche parce qu'il y a Dark Souls 3 qui sort.
Ah, voilà. Donc, je pense qu'il y a une certaine catégorie de
joueurs
qui sera...
Je suis pas un joueur de MOBA, mais je suis un joueur de Dark Souls. Voilà.
Alors, un autre truc qui devrait t'intéresser, la mise à jour de Street Fighter 4 arrive là cette semaine. Pardon, Street Fighter 5, elle arrive avec enfin les challenges des combos, la possibilité de jouer Alex. Tout le monde pourra jouer Alex jusqu'à ce que le store arrive. Le store est toujours pas là. Bon, content de cette mise à jour, toi, Daniel ?
Écoute, ça nous fait l'occasion de beaucoup rigoler au travail à Gamekult. Parce que c'était la blague du genre, ils ont toujours pas annoncé les DLC, pourtant ils ont promis pour mars. Et là, tu sais, c'est sort genre le 31 mars, ils le font vraiment à l'arrache pour essayer d'honorer une promesse. Normalement, je crois qu'ils devaient faire deux ou trois persos, et là, ils passent à un. Tu sens que c'est la panique à bord, hein, parce que le jeu s'est pas vendu, ils arrivent pas à honorer leurs promesses. Il y a la compète qui, il y a les compètes qui arrivent derrière. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est ce jeu, le jeu est génial et tout ce qui est l'habillage est consternant, quoi.
Et je sais pas si tu as vu, Dani, les chiffres de vente, parce que aussi on est en période de sortie pour Pokken Tournament. Et j'avais vu un graphique durant la de comparaison de Street Fighter V et Pokken. Il y a plus de deux fois, il y a deux fois plus de ventes de Pokken sur sa première semaine que ce que Street Fighter V a fait.
Bah ouais, c'était au Japon. Capcom a réussi à remettre Street Fighter dans la niche.
Ouais, non, mais c'était au Japon effectivement. Et je crois que c'est Oscar Le Maire qui avait publié cette.
Ouais, mais en Angleterre, ça va être le cas aussi. Hein, je pense que.
Ouais. Pokken quand même en Angleterre, tu crois?
Non, je déconne.
Ça me paraît dur quand même.
En plus, Pokken, j'y ai joué, c'est vraiment pas top. Quoi.
C'est ça.
C'est genre tellement mal branlé comme jeu. Tu te demandes qu'est-ce qu'il leur. Parce que tu sais, les Pokémon, tu t'attends à ce que ça soit un truc facile et accessible. Et là, t'as une blinde de menus, des trucs que tu comprends pas et tout. Faut avoir bac plus 10 en Pokémon pour comprendre. Et honnêtement, j'ai fait trois parties avec Puyo. Et j'ai vite laissé tomber. J'ai dit, non, c'est bon, j'ai enough.
D'accord. Bon, voilà. Bah écoute, déception.
J'attends le prochain Tekken.
Ouais, voilà. Tekken 7 Fated Retribution qui devrait arriver avant la fin de l'année. Ouais. Espérons qu'il gère ça un petit peu mieux que Street Fighter V, parce que c'est vrai que ce plantage restera dans les mémoires, quoi.
Il n'y a pas de mal.
Petite news, tiens, il y a une étude qui a été publiée sur les jeux free-to-play mobiles et les quantités de personnes qui payent. Alors, on a toujours les idées un petit peu fantasmées sur combien de gens font vivre les éditeurs de jeux mobiles free-to-play, etc., etc. Alors, là, on a une chiffre, c'est une étude hein, sur un segment des jeux mobiles sur une période spécifique, mais ça donne quand même une idée. En fait, il y a, selon cette étude, 1,9% des joueurs de jeux mobiles qui payent. Seulement 1,9%. Donc voilà, déjà moins de 2% des gens qui payent. Parmi ces joueurs, ils font en moyenne 1,8 achats. Donc en moyenne 2 achats, on va dire. Et c'est à peu près $14 par achat. Donc ces 2%, en moyenne, ils font 2 achats à $14. Ok, c'est ce sur quoi les gens, les développeurs de jeux mobiles free-to-play vivent. Déjà, je vous avoue que 2% seulement des utilisateurs qui payent, on comprend qu'ils aillent chasser les utilisateurs à ce point-là en essayant de leur faire payer autant que possible, et on comprend un petit peu la mécanique des jeux free-to-play. Mais au-delà de ça, presque la majorité, la moitié des revenus, 48% viennent de 0,2% des utilisateurs. Rendez-vous compte, 0,2% donne 48% des revenus. Je savais que les jeux mobiles étaient financés par les whales, les baleines qui payaient beaucoup, mais enfin là, c'est encore moins que je pensais, quoi. Moi, je pensais qu'il y avait un petit peu plus que ça quand même qui payait. 0,2% qui donne 48% des revenus, c'est complètement fou.
Et j'essaye de résister quand je suis devant un bon freemium et un truc qui me prend la tête, j'essaye de ne pas craquer.
Le plus frustrant dans les freemiums, en fait, c'est que même quand tu payes, tu payes généralement pour débloquer des trucs. Que t'aurais eu avec le temps, mais surtout, tu devras repayer après. C'est pas que t'as acquis un truc et que c'est fini. Genre, tu acquiers la possibilité de faire ouvrir tes coffres en 30 secondes au lieu de 1 heure, tu vois. Et tu pourras toujours l'avoir et ça te coûte 10 euros. Et voilà, tu l'auras toujours. Non, tu payes des gemmes et puis les gemmes, ça te permet d'ouvrir un coffre. Et après, il faudra repayer. C'est ça qui est le plus frustrant pour moi. Je paierai beaucoup plus, je crois.
Là, je joue à Avengers Academy et il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver. Ils m'ont dit, bon, bah voilà, c'est une offre limitée. Tu peux avoir ce personnage jusqu'à telle date et après, c'est fini. Et il faut soit tu payes, soit tu n'auras pas le personnage. Et c'est très, 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 très frustrant.
Et c'est combien le personnage?
Ça dépend du prix des cristaux, et les cristaux tu les achètes. Je dirais que 2000 cristaux ça vaut 20 euros ou quelque chose comme ça, tu vois.
Et ça là... coûte 2000 cristaux le personnage?
Et un personnage coûte 1000 cristaux, quoi.
1000 cristaux.
Ouais.
D'accord.
Mais ça dépend, parce que les personnages bien, les trucs super renommés, ils coûtent cher.
Bon, Avengers Academy, c'est bien ça?
Malheureusement, c'est ma cam, parce que.
parce que c'est les Avengers mais adolescents. C'est absolument débile, mais les dialogues sont écrits génialement bien. C'est super hypnotique. Ça n'a surtout n'y jouez pas. non, vraiment, vraiment. Je pense que le jeu n'en est pas digne. Il n'y a pas de compétition dans le jeu. Il faut élaborer son académie, quoi. Mais les doublages sont géniaux. Ils ont fait appel à des super grands doubleurs et tout. Le budget de ce jeu m'impressionne, quoi. Donc n'y jouez pas. Moi, j'arrête pas.
Bon, écoute, je suis en train de l'installer.
Oh merde, pardon.
On a perdu Patrick.
Bon, toujours dans les jeux mobiles, Sony a annoncé qu'ils allaient lancer une filiale qui développerait des applications mobiles spécifiquement. Elle s'appelle Forward Works Corporation. Donc, attendez-vous à voir des jeux mobiles avec les propriétés Sony arriver dans les années à venir. On peut tout à fait imaginer voir des Uncharted et des God of War débarquer sur mobile. Pourquoi pas ? Moi, je pense que quand... Le gros problème qu'on a dans les jeux mobiles, c'est que c'est des développeurs de jeux mobiles qui font les jeux. Alors, oui, si on a enfin, il faut toujours s'adapter au marché, donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir des jeux consoles sur mobile, évidemment. Mais par contre, quand des développeurs de jeux classiques s'intéressent aux jeux mobiles, ça peut donner des trucs assez différents et qui peuvent satisfaire des core gamers, je pense. Donc, on a l'exemple avec Hearthstone, par exemple. Voilà. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Ça pourrait donner des trucs cool sur mobile. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
J'ai gentiment arrêté de jouer sur mobile, à défaut de trouver des jeux qui m'intéressent. Ce sera intéressant de voir ce que cette filiale va publier. J'attends de voir. J'attends d'être séduit à nouveau.
Voilà, mais c'est exactement mon problème en fait. À part Hearthstone et quelques trucs par-ci par-là, généralement, c'est tellement la fête au free-to-play que ça me rebute. Et là, je me dis, ça pourrait donner quelque chose d'un petit peu plus intelligent, quoi. Daniel, God of War sur iPad, ça te tente ?
Non, absolument pas. Je pense que dès qu'il y a un aspect jeu d'action, j'ai besoin d'avoir des contrôles sérieux. Et pour moi, les contrôles sur mobile, c'est pas sérieux.
Non, par contre, peut-être God of War, ça serait un jeu de cartes, tu vois. God of Cards.
Ouais, bien sûr, mais c'est pas le même jeu, du coup. Tu vois, ça devient quelque chose d'autre, quoi. Par contre, Miitomo, j'arrive totalement. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'application, donc tu peux très bien le faire du pouce.
Bah alors, tiens, justement, on va passer, pour conclure cet épisode, on va parler des news Nintendo qui nous ont envahis ces dernières semaines.
Ah bah c'est pas fini, hein, ça sort le 31 en Occident.
Ah, bah, le 31 mars ?
Ouais.
Ah, bah écoute, le lendemain, je vais au Japon, c'est quand même con. Mais bah voilà, Miitomo, le premier jeu de Nintendo, enfin, le premier, entre guillemets, jeu de Nintendo sur mobile, iOS et Android. Alors, je dis entre guillemets jeu parce que c'est un truc de chat, quoi. Enfin, tu peux nous en parler, justement, explique-nous.
Ce n'est pas un jeu, c'est une appli. Il y a des mini-jeux dans l'appli, mais c'est pas fondamentalement un jeu. C'est donc une appli, mais c'est...
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Quel est le principe ?
C'est un Ask FM à la sauce Mi. Tu as ton avatar. D'ailleurs, la caméra détecte très bien ton visage pour faire un Mi. C'est assez impressionnant. Pour une fois, enfin, je veux dire, 10 ans après les Mi, tout d'un coup, waouh, on peut faire des trucs bien avec. Et donc, tu es dans cette espèce de petite chambre et tu dois te faire des amis. Tu cherches tes potes Facebook et Twitter qui a l'appli. Et au bout d'un moment, bah du coup, tu engages la conversation. C'est vraiment un jeu de conversation et tu te poses des questions. Attends, bah tiens, tu sais quoi ? Je crois que je vais le lancer là, comme ça, tu vas voir, ça va être du live.
D'accord.
Je vais le lancer là et tu vas écouter les digites vocales qui sont savoureuses, quoi.
D'accord.
Donc, ça charge un petit peu et donc tes amis peuvent te poser des questions et toi, tu leur poses des questions. Écoute-moi ces petites musiques Nintendo. Je ne sais pas si vous les entendez.
On entend très bien. Ouais.
Alors là, j'ai le truc pour la campagne Nintendo. On s'en fiche.
Salut. Notre niveau de popularité est passé à 10. Nous sommes de plus en plus populaires, ma parole. Pour fêter ça, nous avons même reçu un cadeau de la part de Nintendo.
Évidemment,
Ah, une couronne de popularité niveau 10. Je suis trop content. Je suis mec ultra cool, hein, les amis. Hein.
La voix respire la joie.
Ah ouais, non, mais c'est impressionnant, là.
Et alors, par exemple là, il va me poser une question.
Dis, qu'as-tu fait le week-end dernier ?
Et donc, tu peux répondre ou pas, et les autres vont réagir ou pas. Et alors là, écoute.
Pareil qu'avant.
Ouais, j'ai dit pareil qu'avant, voilà. Et voilà, et
salut.
Alors, qu'est-ce qu'il va me demander ?
Je peux te poser une question. Comment voudrais-tu être appelé par la personne que tu aimes ?
Alors moi, je vais répondre une bêtise. Je vais dire...
Mon
hop,
poutou
le temps
foulou.
De taper.
Maître, ça me plaît bien. Je crois que je pourrais m'y habituer très vite.
N'est-ce pas ? Et voilà, et c'est...
D'accord, donc ton mi te pose des questions,
Ton mi te pose des questions, c'est toi-même qui te pose des questions, et tu dis, bon, là, il m'a demandé mon jeu vidéo préféré, je vais pas dire Mitomo, puisque c'est pas un jeu. Et les autres te répondent, et...
Mais attends, quand tu dis les autres te répondent, ça veut dire...
Tes amis que tu as trouvés via Twitter ou Facebook... te répondent ou réagissent, il y a des files de commentaires en fait qui se créent derrière ta réponse.
C'est-à-dire que toi, tu dis comment veux-tu que celui qui t'aime t'appelle, tu dis maître, ouais. Et immédiatement t'as des réactions.
Il y a des gens qui vont réagir, ils vont voir ma réponse et ils vont réagir, ils vont dire oh là là, c'est rigolo, oh là là, c'est pas rigolo, peu importe quoi.
Mais c'est leur mi qui répond ou eux directement?
C'est leur mi qui répond, bien sûr.
Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc toi, tu peux pas vraiment interagir avec les personnes. Tout se passe par mi interposé, quoi.
Et après, eux, il y a une autre fonction, c'est que eux, toi, tu écoutes leurs questions à eux et tu écoutes leurs réponses et là, tu réagis sur leurs réponses. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est vraiment élémentaire. Mais ça tourne pas mal et surtout c'est assez rigolo. J'ai un ami qui me disait en fait le potentiel de cette appli c'est en bourré en soirée où tout le monde écrirait n'importe quoi. Et il en a fait une justement, il m'a dit c'est vraiment en bourré en soirée, c'est génial.
Je suis sûr que c'est exactement le public visé par Nintendo, hein. Les gens bourrés en soirée, c'est parfait pour eux.
Écoute, moi ma copine n'est pas une gameuse mais par contre elle voit l'appli, elle voit ce que je fais avec et elle est folle, elle dit bien, j'ai hâte d'y jouer. Parce que voilà, je change mes fringues et t'as une boutique où tu peux acheter des fringues. C'est pas un jeu qui pousse à l'achat énormément parce que on parle de tous les achats freemium et tout ça. C'est pas du tout axé là-dessus. Je pense pas que Nintendo table de se faire de l'argent dessus. La carotte derrière, c'est que en fait pour Mitomo, tu es pas obligé de l'avoir, mais il faut mieux avoir un compte My Nintendo. My Nintendo, c'est le nouveau club Nintendo et pour les gamers, c'est-à-dire nous, je nous compte comme des gamers tous, hein, les amis. Pour les gamers, bah, il y a des réductions sur les softs, il y a des réductions, il y a des softs inédits sur My Nintendo. Par exemple, là, normalement, aujourd'hui, je vais télécharger Zelda Picross, un Picross uniquement consacré à Zelda, quoi. Pour ma 3DS. Et du coup, c'est pour
moi. Mais attends, ça veut dire qu'en jouant à Mitomo, tu peux avoir des avantages sur le club Nintendo qui s'appliquent aussi aux autres machines Nintendo.
Ouais, par exemple, tu peux avoir 50% sur New Mario Bros. Ou je sais pas quoi.
Ah, d'accord.
Et oui, là, t'as coup, tu vois, le gamer en toi fait « Ah !»
Ouais, exactement. Ouais.
Pour moi, c'est clairement un sous-marin de Nintendo pour asseoir my Nintendo, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bah, à vrai dire, je pense que c'était ça dans tous les sens du terme. C'est ce qu'on disait au début. C'était une petite application pour mettre le gros doigt de pied dans le lac du mobile. Et puis surtout pour tester leur processus de développement, pour tester les processus sur les stores et puis leur réseau, quoi, qu'ils ont développé avec DNA, leur réseau. Et leur infrastructure, ils avaient besoin de la tester et ils pouvaient pas tester ça avec leur premier jeu Mario sur truc, ça aurait tout fait exploser, quoi. Donc c'était très intelligent de leur part à tous les niveaux.
Là c'est un sous-marin et c'est pas fondamentalement destiné à tous les gamers. J'ai des potes qui me disent ça me prend le cul, ils sont pas très médias sociaux, mais moi par exemple, tu vois, je suis sur Snapchat et sur Instagram, c'est juste un réseau social de plus dans lequel je m'amuse à me plonger de temps en temps, quoi.
Ouais.
Et je me défends, je suis sur Snapchat pour surveiller mon neveu, pas pour autre chose.
Bien sûr. Okay. Ouais, Christophe.
Si je peux rajouter quelque chose, Je te rejoins dans l'idée de test. Surtout que prochainement, les fans de Nintendo attendent surtout la sortie de Pokémon Go. Je pense que ça, c'est une manière intelligente déjà de créer la communauté autour de Nintendo, qui, en tout cas, de mon avis, a un problème par rapport à ça. On a vu passer les codes Nintendo, qui sont une manière horrible de se connecter. Je pense que c'est une solution très intelligente. Et puis, comme tu as dit, tester l'infrastructure.
Et juste pour en préciser, Pokémon Go, il est développé par Pokémon Company, qui est complètement une autre infrastructure. Je pense que ça utilisera My Nintendo aussi. Mais c'est des stratégies commerciales très différentes. Pokémon, on l'oublie, mais c'est une entreprise indépendante de Nintendo. Oui. Même si Nintendo en possède une énorme partie.
Une grosse partie, oui.
Et que c'est un montage financier.
Il arrive quand, d'ailleurs
Comment ?
Pokémon Go, il arrive quand en Occident ?
Cette année. Je crois que la vidéo me disait cette année. C'est tout ce que je sais.
Il y a juste, il y a eu des leaks par rapport à des versions dev, de vidéos de jeux en action. Mais il est encore en développement, encore en polissage.
Et ça a l'air tellement ambitieux par rapport à ce que fait.
Mais Niantic a fait un jeu ambitieux, hein, avec. C'est déjà quoi son Ingress? C'est les développeurs d'Ingress qui s'occupent justement de Pokémon Go.
Ouais.
Ils ont, pour moi, justement, la Pokémon Company a choisi le bon développeur pour ce projet.
Ouais, moi je reste assez sceptique sur ce jeu. Le fait d'aller chercher des Pokémon dans la, entre guillemets, vraie vie, ça me semble être un petit peu comme pour faire la boucle, un petit peu comme le motion gaming, c'est la fausse bonne idée, quoi. Tu dis, je vais pouvoir.
Tu serais étonné le nombre de personnes déjà qui attendent ce jeu et par rapport à Ingress, si je reviens avec Ingress, les Niantic a réussi à développer une communauté de personnes qui simplement fait sortir les gens.
Mais je suis d'accord. Je sais qu'il y a des fanatiques de Ingress, mais je sais pas, moi ça m'a pas. Bon, enfin, on verra. Hein. Ça se trouve, Pokémon Go sera magnifique.
Ah, je te sens négatif, Patrick.
C'est vrai que généralement, je suis plutôt négatif sur beaucoup de choses. Je me rends compte que j'ai des avis assez différents de la plupart des fans de jeux vidéo. Donc, mais vous savez quoi ? Toute l'industrie du jeu vidéo a été dans le même sens, qui est celui de croire à ces images leakées du contrôleur de la Nintendo NX, qui n'étaient en fait finalement que des pauvres fakes bien pourris, qui avait été fait par des développeurs,
bien pourri et bien pourri. Ils ont quand même, ils ont fait 150 pages de Fred sur NeoGAF quand même.
Oui, non, en fait,
il y avait la team Real, quoi.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait des, pour expliquer ceux qui n'auraient pas vu passer le truc, c'était cette manette qui était en fait une forme ovale, très allongée, avec un écran qui faisait toute la surface de l'appareil et juste deux petits joysticks qui sortaient sur les côtés, mais sur l'écran. Et il y a plein de gens qui se sont dit, si ça se trouve, c'est effectivement la manette de la NX et c'est la manette que tu transportes avec toi qui fait aspect portable. Et puis quand t'es de retour chez toi, ça se branche à la console et c'est comme ça que ça marche. Et effectivement, au final, c'était des fakes. Il y a deux artistes, deux développeurs qui ont créé ces images indépendamment, sans se consulter, en fait, ce qui était très drôle, et qui les ont leakées en disant voilà des images de la nouvelle manette. Et Nintendo devait rigoler en attendant, parce qu'effectivement, c'est pas du tout ça.
Écoute, donc, c'est génial parce que du coup, sur NeoGAF, ils ont annoncé que en fait c'était des vidéos, ils ont montré les making of de comment ils ont fait les fausses manettes. Et il y a quand même des gens qui se sont dit « Ah, ça, c'est Nintendo qui fait de l'intox. » Parce que, genre, vraiment, c'était la théorie de la conspiration. Moi, j'étais
jusqu'au
team
bout,
fake.
Quoi.
J'étais team fake. Gamekult était team fake à tel point qu'ils n'ont pas parlé de ces infos. Je leur ai dit « Mais vous êtes fous, ça ferait du clic. » Ils disent « Non, on ne souscrit pas. » Et moi, j'étais team fake. Et j'ai des amis qui travaillent chez Nintendo qui, bien sûr, n'ont absolument rien le droit de dire. Mais par contre, j'ai le droit de leur dire « Moi, je pense que c'est fake ou vrai. » Et je les sens sourire à l'autre bout
du téléphone.
Ouais, je sens. Il me dit OK, très bien. Mais voilà, c'est tout ce que j'aurais comme réponse.
Et n'empêche, ces fakes-là ne pouvaient pas mieux tomber dans cette période-là suite aux annonces faites.
Moi, je pense qu'ils vont annoncer tout en avril.
En avril, tu crois ?
Moi, je pense
que ça sera tout en avril, fin avril, boum, tu auras tout.
Mais pourquoi en avril et pourquoi pas attendre le 3?
Eh ben le 3, ils donneront la date et le prix.
Peut-être. Ça fait sens.
Et ouais, avec un Nintendo Direct. Ils font toujours leur annonce de hardware avant, au moment des résultats fiscaux.
Peut-être, peut-être. C'est possible. Surtout que ils peuvent effectivement garder toute l'attention sur eux en avril ou même en mai, s'ils font les annonces à ce moment-là. Et tout le monde pourra comprendre le concept de cette bestiole qui risque d'être bizarre. Et puis, à l'E3, annoncer une date de sortie qui serait, à mon sens, fin d'année, quoi. Ça serait possible.
Moi, je pense que fin d'année, c'était optimiste, mais...
Ouais. Fin d'année, en tout cas, avant la fin mars pour
fin mars, ouais.
L'année
fin
fiscale.
Fin mars, moi.
Ouais. Et ben, justement, il y a c'est le Nikkei, c'est ça, qui a annoncé que Nintendo serait, enfin, selon certaines de leurs sources, que Nintendo prévoirait d'arrêter la production de Wii U, d'ici la fin de l'année. Et Nintendo... Et pas que des Wii U, Christophe ?
Et pas que des Wii U. J'ai appris dernièrement qu'il y a eu un retailer américain, un vendeur américain qui ne reçoit... Que Nintendo a envoyé comme information qu'il n'y aurait plus de 3DS XL pour cette année 2016.
Oui, bon, ça, à la limite, ça peut être des contraintes de production. Ça n'implique
peut-être
pas la fin de la 3DS. Mais par contre, sur la Wii U, effectivement, et Nintendo a réagi avec une annonce qui était censée être réfuter la chose, mais qui réfute pas vraiment, en fait. Le Nikkei dit ils vont arrêter la production cette année. Et Nintendo répond en disant bah écoutez, nous on produit comme on avait dit, on ne change pas nos plans, en gros. Et donc t'es là, bah oui, mais donc vos plans c'était quoi? C'était de produire jusqu'à la fin de l'année ou donc ils ont pas dit.
C'est de la com, hein.
Ouais, du coup, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça, c'est effectivement, je t'ai entendu le dire, Daniel, c'est hyper tôt la fin de l'année parce que généralement quand il y a une nouvelle console qui arrive, l'ancienne console continue à être produite, elle est vendue moins cher parfois dans les mêmes pays ou dans d'autres pays, etc., pendant encore plusieurs années.
Ouais, pendant un an ou deux, ouais, voilà. Nintendo continue à faire toujours ça, quoi.
C'est
pour ça que je pense qu'ils sont très pessimistes, le Nikkei.
Bah, en fait, ce que ça me fait penser, ce à quoi ça me fait penser, c'est l'idée que, bon, d'une part, on sait que la Wii U a pas marché, c'est pas la peine de continuer à, comme on dit en anglais, battre un cheval mort, ça on le sait, mais bon, d'une part, il y aura encore des machines dans le commerce s'ils arrêtent la production parce qu'ils en ont encore, ils ont peut-être encore des stocks, mais surtout, je me dis, si jamais la nouvelle console a une forme de compatibilité avec la Wii U, s'il y a les jeux Wii U fonctionnent sur la nouvelle machine, peut-être qu'ils se disent bah plus personne ne voudra acheter une Wii U, tout le monde achètera la nouvelle, et donc est-ce que ça veut dire que il y aura effectivement une forme de compatibilité qui sera établie avec la nouvelle console de rétrocompatibilité.
Ça va être compliqué parce que la Wii U c'est quand même très très propriétaire comme système. On verra bien.
Elle est tellement peu puissante, elle pourrait être émulée. Alors oui, il y a la question de la manette, mais...
Le truc, c'est que tu pourrais utiliser genre la tablette, l'ancienne tablette sur la nouvelle console. Ça, c'est une possibilité.
Voilà, l'ancienne tablette sur la nouvelle console. Ou même, il y a tellement de jeux qui n'utilisent pas la tablette. Tu te dis, les jeux, si t'as pas de tablette, bah voilà, il n'y a pas de tablette et puis basta. Et c'est tout, tu vois. Et les jeux qui ont besoin absolument de la tablette, tu peux brancher ta tablette de Wii U à la nouvelle machine.
Une possibilité.
Moi, j'y crois. Enfin, je voudrais y croire, on va dire.
De toute façon, traditionnellement, la rétrocompatibilité est partie de chaque console Nintendo. Hein.
Bah, c'est vrai que pas toutes, hein. Franchement.
Mais à partir de la GameCube, quoi.
C'est ça, voilà. Ouais. Donc ça pourrait, mais bon.
À partir du moment où c'est devenu pourri, quoi. Non, je déconne. J'adore les consoles Nintendo. C'est juste une blague.
Il faut avouer que à part la Wii, si on regarde les courbes, c'est quand même de pire en pire à chaque nouvelle console de salon, pas portable.
Et par contre, ils nous font racheter les jeux Super Famicom 15 fois.
Voilà, c'est ça. Sur console virtuelle.
Sur ta Wii U, j'en peux plus.
Ouais.
Et du délire.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on a couvert à peu près toutes les news de ces deux dernières semaines. Je vous remercie d'avoir été présent et d'être resté malgré quelques petits problèmes techniques en début d'émission.
On fait de notre mieux.
avant de nous quitter, Christophe, est-ce que tu peux nous dire si tu as des endroits sur Internet où on peut te retrouver ?
Alors, je n'ai pas de compte Twitter. En Suisse. Non, c'est... Il y a des gens qui utilisent Twitter, mais c'est bien moins populaire que...
D'accord, alors où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, on peut me trouver sur Steam.
Ah,
alors, cherchez Trust sur Steam, T-R-O-S-T, vous trouverez un mammouth, c'est mon logo.
D'accord.
Sinon, je vous invite à liker la page Facebook de Gaming Federation, facebook.com/gamefed, et sinon sur gamingfederation.ch.
Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Christophe. Maintenant, Daniel, ton heure est venue. Le moment de pimper. Voilà.
Alors d'abord, je m'appelle Daniel Andriev. Vous pouvez me retrouver. Par contre, nous à Paris en France, Twitter, il y a que ça de vrai. Donc moi, je suis Camouille Robotics sur Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver. Alors, je travaille à Gamekult notamment pour l'émission Gaijin Dash, dont le prochain épisode sera diffusé cette semaine, juste après l'annonce de FF15, puisque, comme vous le savez peut-être, Square Enix fait une grosse rumba pour FF15 à Los Angeles.
Et on sait ce qui va se passer ou on a des...
Moi, je sais ce qui va se passer, mais je sais que tu diffuses lundi, donc je peux rien dire.
Ah, oh, damned. Bon, ok. Il faudra aller voir sur Gaijin Dash, alors.
Voilà. Je pense que, tu sais, ça sera all over the world, mais bon, je vais éviter les snipers de Square Enix. Et donc Gaijin Dash vous engage à regarder. C'est une émission qu'on anime avec mon ami Greg et Puyo. Et en plus de ça, j'écris aussi pour Le Monde. J'ai un article sur Dark Souls qui va être publié sans doute la semaine prochaine au moment de la sortie du jeu. Et j'en viens à mon actu, c'est que j'ai lancé mon propre podcast. Et je dois dire que j'ai mon senpai Patrick Béja qui m'a donné des conseils. Donc pour l'instant, ça se passe à merveille. Ça s'appelle After Hate. Et c'est un talk show culturel où on s'amuse à déconstruire la pop culture, justement, avec un camarade qui s'appelle Quix, qui réside à Los Angeles. Donc, on a deux angles différents à chaque fois. Et souvent, on n'est pas d'accord. Et parfois, on matraque, on martèle et on humilie les trucs dont on parle. Mais aussi, on aime il y a des choses qu'on aime passionnément aussi. C'est un talk show. Et pour l'instant, on est en diffusion hebdomadaire, on va sans doute ralentir un peu, c'était au début pour teaser un peu l'émission. Ça s'appelle After Hate, en deux mots, After Hate. Et on a le site internet afterhate.fr. Vous pouvez nous retrouver sur... J'ai l'impression de faire Patrick Béja là. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, mettre des petites étoiles, mettre des gentils commentaires. Je suis assez content que ça commence à germer. J'ai pas mal de projets en ce moment de ce type-là. Et je comprends pourquoi Patrick aime ça en fait, parce que c'est assez enivrant en fait quand on commence.
On a du mal à s'arrêter.
Après, on se met à faire le rendez-vous jeu, le rendez-vous high tech, le rendez-vous culturel entre gens amoureux de Jules Verne. Enfin, il y a plein de choses qu'on veut faire et d'un coup, ça m'a un peu donné des ailes et je suis très content d'avoir commencé After Hate. Et je te remercie Patrick de ton soutien, ça me fait très plaisir.
Ben, je t'en prie, ça me fait
plaisir. Et ça me fait très plaisir de participer à cette émission. Ce matin, c'était compliqué, techniquement, tout ça, et ça a l'air de s'être bien terminé.
Oui, ben écoute, tu me donneras des petits conseils pour le Japon, du coup, en remerciement, puisque je pars, moi, dans quelques jours à peine pour passer 2 mois au Japon. Donc, les émissions continueront, bien sûr, hein, y a pas de souci à ce niveau-là.
Ça va modernité continuer. De cet homme, c'est incroyable.
Ah, mais c'est incroyable, l'Internet, ce que
j'ai
permis
de faire. J'ai envie de t'épouser.
Écoute, on va discuter.
D'accord.
Je te trouve assez sexy dans ta photo sur Skype, là. Donc, je swipe, c'est quoi sur machin? Je swipe... Left
je swipe
right.
À gauche.
Swipe à gauche, voilà.
J'ai un neveu qui est sur Tinder, je sais comment ça se passe.
Hein. Dis-moi, t'as des neveux sur tous les réseaux sociaux.
J'ai qu'un seul neveu, et du coup, et j'en aurai qu'un seul, et du coup, tous les enfants de mes potes qui naissent deviennent mes neveux, c'est assez impressionnant.
D'accord.
Là, j'ai eu deux naissances hier, je suis très content, c'est comme mes petits neveux.
Écoute, on va regarder ce que ça donne sur Mitomo entre toi et moi, si nos mi s'aiment bien ou ne s'aiment pas.
Oh,
on
ils vont s'adorer.
Bon, pour ma part en tout cas, c'est sur Twitter, NotPatrick, et sur Facebook, NotPatrick. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr. C'est l'émission, le podcast, mais plutôt le site web où vous pourrez retrouver tous les podcasts que je produis. Vous pouvez aussi en retrouver sur frenchspin.com en anglais, entre parenthèses, dont celui avec Phileas qu'évoquait Daniel à l'instant. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça. L'émission sera de retour dans 2 semaines, normalement depuis le Japon. Peut-être que je ferai un petit truc particulier à ce moment, on verra, puisque je serai dans le pays du manga et du jeu vidéo Nintendo. Donc on verra ce qui se passe à ce moment-là.
Est-ce que je peux t'appeler maître podcast ?
Oh, mais écoute, moi je ne dirai jamais oui, mais ensuite tu fais ce que tu veux. Je suis bien trop humble
senpai.
Pour dire ça. Senpai, on m'a jamais vraiment appelé senpai, mais ça fait
voilà,
un petit quelque
fait.
Chose quand même. Bon, bah merci à tous et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.